Monumental,
en nouvelle diffusion.
Monumental.
Hé, hey, oh, c'est moi qui parle.
Monumental. Joanne Ducey. Réalisation, Christian Morero.
Hé, hey, c'est moi qui ai été sélectionné pour représenter Rome aux Jeux Olympiques, par Jupiter.
Olympie était la seule cité du monde grec où l'on vénérait à la fois les dieux et les hommes. Tous les 4 ans, au mois de juillet, des milliers de personnes quittaient tous les coins de l'Empire pour affluer vers Olympie et prendre part aux compétitions ou assister aux plus grands spectacles du monde.
Bonjour, je suis Lorenz Baumer, professeur d'archéologie classique à l'Université de Genève.
La première fois à Olympie, vous avez encore aujourd'hui des souvenirs, des impressions, des sensations?
Absolument, ça m'a même profondément marqué. Je me rappelle très bien mon premier voyage en Grèce, parce que c'était très proche de la Matthue. Et on est allé, les élèves, avec un vieux car, pour 3 semaines en Grèce, pour explorer tous les sites de la Grèce, et dont évidemment aussi un passage assez tendu à Olympie, où on a fait du camping au bord de l'Alphée, même si c'est interdit. On l'a quand même fait, donc voilà, c'est les premières approches, c'était très proche de la Matthue. Disons ainsi.
Et votre sentiment face au lieu ?
Une fascination du paysage qui vous entoure, d'abord se retrouver en Grèce, et puis ce sentiment du génie du lieu qui se fait marquer sur tous les sanctuaires. C'est jamais au hasard, comme les Grecs ont cherché et identifié des lieux cultuels. Et même si on n'arrive parfois pas à l'identifier, on a l'impression qu'on pourrait le sentir. Il y a quelque chose de spécial dans ce lieu, comme sur beaucoup d'autres sanctuaires d'ailleurs.
Extrait du documentaire « Les 7 merveilles de la Grèce antique ».
Aménagé autour des installations sportives et du sanctuaire dédié à Zeus, le site d'Olympie accueillit pendant plus de 1000 ans des athlètes et des spectateurs venus de Grèce et des contrées avoisinantes. Tous venaient assister au plus grand événement de l'Antiquité, les Jeux Olympiques.
Oui, mais il faut tout d'abord retenir que ce n'est pas les seuls jeux panhelléniques, comme on les appelle, qui existent. Nous avons donc les 4 sites, en effet, qui, à partir de la fin de la période archaïque, à partir du 6e siècle, commencent à rayonner et aussi à se faire concurrence, nous devons le dire. Donc c'est Olympie, c'est Delphes, c'est Isthmie et Némée. Et tous ces sanctuaires organisent donc des jeux olympiques ou panhelléniques plutôt. Olympie a profité énormément au 5e siècle pour rayonner éventuellement un peu plus loin que les autres pour les activités sportives.
Le stade d'Olympie fut le théâtre des premiers Jeux Olympiques antiques en 776 avant Jésus-Christ. Les hommes venaient s'y affronter au cours d'épreuves sportives.
Mais pourquoi faire des Jeux ?
Ça fait part de la vie cultuelle et de la religion, et ça fait part aussi de la société. Quand vous prenez aussi une procession ou des jeux ou des compétitions sportives, c'est en ce moment-là où se constitue le corps social, littéralement. Chacun a sa place. Aussi quand on passe au théâtre, chacun a sa place. Donc alors là, ça crée un esprit de société, un échange. Vous voyez faire part d'une société plus élargie, donc vous jouez un rôle à votre place. Et cela permet aussi de mettre en avant des vertus, des avantages, comme la beauté de l'esprit, la beauté du corps, la santé, etc. Donc ça réunit tous ces éléments sous la chapeaute de la religion et du culte.
Tous égaux au moment du départ, les athlètes s'élancent pour la course la plus prestigieuse, le stadion. Le stadion fut de tout temps l'épreuve qui inaugurait les Jeux à Olympie. Les athlètes n'ont qu'un seul désir, franchir en tête la ligne d'arrivée sous le regard de Zeus.
Ces Jeux olympiques à Olympie, est-ce qu'ils se déroulaient tous les 4 ans ?
Ça se déroule avec un intermédiaire de 4 ans, pour être très précis. Et si nous parlons aujourd'hui des Olympiades, par principe, c'est une erreur, parce que l'Olympiade ne désigne pas la période des Jeux, mais la période entre deux Jeux. Donc c'est la période de 4 ans qui donne l'Olympiade et la période des Jeux qui est terriblement courte. Aujourd'hui, c'est combien les Jeux olympiques ? C'est 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, même plus. En effet, les Jeux olympiques, ont duré au début 1 journée, à la fin c'était 5 jours, avec une journée réservée au culte, donc 4 jours au maximum pour les activités sportives. C'est une chose très courte, très intense.
Avant de s'affronter, les athlètes s'entraînaient dans la palestre. Cet édifice était réservé aux hommes participant aux épreuves de lutte, de pugilat et au saut en longueur.
Qui étaient les participants ?
L'intérêt particulier d'Olympie, comme de tous ces sites panhelléniques, les gens viennent de l'ensemble du monde grec. Et s'il faut identifier ce monde grec, il faut juste remonter un tout petit peu. Au 8e siècle avant Jésus-Christ commence quelque chose que nous appelons la colonisation grecque. La Grèce devient trop petite, les gens commencent à partir, la Grèce commence à élargir son rayonnement. Donc par bateau, on envoie des troupes, surtout des jeunes hommes, pour aller fonder des nouvelles villes. D'abord, les toutes premières stations au Levant, puis ensuite, très vite, en Italie du Sud et en Sicile. Et ça va plus loin jusqu'à Marseille, qui est une ville grecque, et à Ampurias, en Espagne, qui est aussi une fondation grecque. Donc, ça crée un rayonnement de la culture grecque. Ils ont tous des liens avec leur cité mère, même s'ils sont indépendants. Et ainsi, on revient en Grèce, on est attiré par ces Jeux et on participe à ces Jeux olympiques. Pour donner un exemple, au 6e siècle, il y a le grand général Milon de Crotone, où nous avons un projet de recherche, juste pour cette raison, j'en parle. Et c'était un des meilleurs athlètes qu'il a gagné 6 fois plus que tous les autres athlètes. Et il vient de la Calabre. Donc en effet, les gens reviennent dans leur patrie à l'original ou dans leur région mère à l'origine pour participer à ces Jeux.
La première épreuve fut une course de 200 mètres. Par la suite vint le 400 mètres, puis le 5000 mètres et le pentathlon, réunissant la course, le saut, la lutte, le lancer du disque et celui du javelot.
Mais comment les athlètes étaient-ils prévenus de la tenue des Jeux Olympiques ?
Il y a des calendriers dont on savait exactement bien à quelle date vont avoir lieu ces Jeux. Et il y a une période de préparation qui est annoncée, qui prenait par contre la courte durée des Jeux jusqu'à 10 mois. Donc les athlètes se sont préparés dans des camps d'entraînement pour arriver à Olympie, pour participer à ces petites parties. Donc alors là, c'est comme aujourd'hui, on pourrait dire, c'est presque la même chose. Ce sont aussi des athlètes avec une compétence quasiment professionnelle. Donc c'est pas on y va et on participe et on s'amuse. C'est vraiment des athlètes de grande renommée et qui ont profité aussi de l'investissement de leurs sponsors. Pour les
concours. Il y avait déjà des sponsors.
Ah, évidemment. Donc alors, c'est-à-dire, vous avez aussi un profit en tant que sponsor. C'est pas pour afficher, voilà, télécommunication, je sais pas quoi, mais vous tirez beaucoup de profit de cela. Donc vous soutenez, ou vous êtes le propriétaire d'un certain nombre d'athlètes, ou par exemple d'un groupe de chevaux, et vous financez toutes ces préparations, puis votre athlète va gagner, et vous héritez le renommé. Donc ainsi, il est aussi arrivé, par exemple, qu'une femme est mentionnée en tant que financière dans un concours hippique qu'elle a gagné aux Jeux Olympiques, même si elle ne pouvait pas participer.
Et tout ça pour gagner du crédit, une certaine renommée, une prestance ?
Oui, et aussi un profit économique, c'est-à-dire le prix que vous touchez en tant que vainqueur aux Jeux Olympiques, c'est nul. Vous recevez la couronne, c'est très symbolique, mais vous recevez le droit aussi d'ériger un monument à Olympie et dans votre cité mère, dans votre ville-mère. Ça vous donne une présence publique. Donc c'est extrêmement prestigieux de se voir représenté comme vainqueur aux Jeux Olympiques. Et ainsi, ça attire de l'intérêt.
La victoire ailée descend du ciel. Elle est la manifestation de la faveur divine. En accrochant un ruban au bras du vainqueur, elle montre qu'il est l'élu des dieux. Obtenir une victoire dans l'un des 4 concours panhelléniques transforme la vie d'un athlète. Le prestige que confère la couronne de laurier à Delphes, d'olivier à Olympie, de pin à Ismia ou de céleri à Némée est considérable. Les athlètes acquièrent un statut de quasi-divinité et à ce titre deviennent des citoyens choyés par leur cité d'origine.
autre part, dans certaines villes, vous étiez jusqu'à la fin de votre vie nourri publiquement, donc vous avez beaucoup de profit de ce côté-là aussi. De nouveau, on pourrait faire la comparaison un tout petit peu avec aujourd'hui. Donc les Jeux Olympiques ne donnent pas de prix, mais les sponsors et tous les profits qu'ils ont ensuite avec la publicité, c'est un peu plus économisé, mais par principe, c'est le même principe qui se met en marche.
Olympie.
Tous les 4 ans, les cités en guerre déposaient les armes au nom d'une compétition pacifique. À mesure que les Jeux gagnaient en importance, le sanctuaire de Zeus s'étendit pour devenir la première cité sportive du monde avec des lieux d'entraînement, des thermes, des pensions et un stade qui pouvait accueillir 40 000 spectateurs.
Vous rajoutez là encore tout le personnel du sanctuaire. Il faut aussi s'imaginer qu'ils viennent des petits commerçants parce qu'il faut nourrir les gens. Vous imaginez les ateliers qui viennent s'installer pour vendre leurs petits votifs, etc. Donc nous pouvons partir facilement, je pense, de 100 000 personnes qui se réunissent sur ce lieu. Donc c'est comme la haute saison de tourisme en été aujourd'hui. On n'arrive pas à ces chiffres.
Ça se transformait en véritable ville.
Une ville très éphémère. Donc nous n'avons pas d'installation fixe. Les seules installations fixes dont nous disposons sont les installations pour la gestion du sanctuaire, pour le sport et pour les athlètes. Il y a quelques-unes. Mais les gens s'installaient plutôt sous des tentes où ils dormaient sous
la belle étoile. Étoile aussi.
Voilà.
Hein.
Il fait bon en Grèce, donc on n'a pas de grands problèmes. Nous trouvons par contre les objets qu'ils ont laissés. Là, on a relativement peu parce qu'on a fouillé quelques puits qui ont été remplis avec ce matériel. Au silo dont il faudra parler encore, mais donc nous trouvons des petits objets du quotidien que les gens ont laissés sur place. Sauf dans la tradition archéologique du 19e siècle, on a évidemment fouillé les grands monuments et pas les places du camping. C'est un peu moins intéressant pour l'archéologie traditionnelle. Aujourd'hui, on le ferait plus tôt, mais aujourd'hui, on n'a plus les moyens de fouiller ainsi.
Vous vouliez parler de l'eau ?
Oui, parce que ça fait un des points qui marque le plus ce site, donc qui a sur les deux côtés deux fleuves qui passent, en même temps approvisionner un grand nombre de personnes avec de l'eau pose un problème. Et nous voyons, ça les fouilles ont montré, qu'on a creusé des puits temporaires pour les remplir. En même temps, au niveau sanitaire, etc., si vous réunissez sur un petit espace comme Olympie autant de monde, il faudra dire, parfois nous avons une image trop idéalisée de l'Antiquité. C'était pas si sain, je pense, et l'odeur n'était pas tout à fait à la hauteur après une semaine d'événements sportifs à cause de cela. Donc l'eau a certainement posé un problème majeur aussi, même s'il y a les deux fleuves.
Étoile M. Ariane Moffat.
C'est rien, on est tous un peu flous, pas sûr de nous du tout, dans la nébuleuse.
Ce soir, en regardant les étoiles, j'ai vu dans le ciel quelque chose.
Filante, et toi, la bonne étoile, retourne.
étoile filante, étoile, la bonne étoile, autour de tout sa figure. C'est qu'un jour je pourrais lui plaire, somme si d'air, ce désir qui monte en moi. Quelques étoiles fuyantes, étoiles, la bonne étoile, autour de toutes ces figures.
C'est monumental sur la première.
Au cœur d'Olympie, le principal bâtiment du sanctuaire était le temple de Zeus. Il abritait l'une des sept merveilles du monde, la statue de Zeus. D'or et d'ivoire, cette œuvre colossale, sculptée par Phidias dans les années 430 avant Jésus-Christ, mesurait 14 mètres de haut.
Olympie, le lieu le plus important, c'était le temple de Zeus. Comment était-il ?
Tout d'abord, ce n'est pas le lieu le plus important.
Il faut le bien plus spectaculaire ?
Le dire. Oui, le plus spectaculaire. Mmh. Mais le centre de sanctuaire est toujours l'autel, et jamais le temple. Et il y a beaucoup de sanctuaires qui n'ont jamais vu de temple, mais il faut toujours avoir un autel. Donc le lieu le plus important, c'est en effet l'autel, qui, par sa présentation, est loin d'être spectaculaire. C'est une colline de centre. Donc il n'y a même pas une grande structure, une colline de centre qui est entourée par un mur avec cinq côtés et qui était marquée par un portail. Donc ça, c'est le centre. Mais je suis d'accord, le monument le plus impressionnant, c'est en effet le temple de Zeus. Élis, qui est la ville, la cité qui dirige ce sanctuaire, devient riche et va ainsi marquer sa présence aussi. Donc on fait venir les meilleurs architectes, les meilleurs sculpteurs, les meilleurs artistes pour marquer un point. Parce qu'il faut tenir la route. Avec d'autres sanctuaires, Delphes ne dort pas. Alors il faut rattraper, hein, il faut marquer sa présence. Donc nous sommes aussi dans ces positions politiques de prestige, comme nous voyons ensuite un peu plus tard sur l'Acropole d'Athènes avec le Parthénon, etc. Donc on commence à construire autour de 470, un peu avant, cet énorme temple, en effet, d'une structure tout à fait traditionnelle. C'est ce qu'on appelle le temple dorique. Le temple dorique, il est situé sur un fondement de 3 gradins et ensuite il est entouré de 6 sur 13 colonnes.
Monumental, Olympie, avec Lorenz Baumer, professeur d'archéologie classique à l'Université de Genève.
Ce qui fait la fascination de ce bâtiment, c'est la qualité du travail. Il est construit dans du calcaire local qu'on est allé chercher pas trop loin, c'est à quelques 10 kilomètres où il y a les carrières, et on a fait transporter ces énormes blocs, parfois de 2,50 m sur 2,50 m, même plus grands, plus toutes les tambours des colonnes qui pèsent chacune, je ne sais pas combien de tonnes, pour ériger ce bâtiment. Avec une précision du travail, une mise ensemble qui est vraiment absolument exceptionnelle. Tout cela sera dépassé ensuite par le Parthénon, qui est un bâtiment d'un génie absolu, mais pour sa période, c'est très important. pour se visualiser ce temple. Donc aujourd'hui, il se présente en gris quand on y va. On a remonté une des colonnes pour donner une image. L'Institut allemand avait rêvé il y a quelques années de remonter une deuxième. C'était tellement cher qu'on a renoncé à cela. Mais ça n'a été pas gris. Le toit a été couvert avec une fine couche de stuc blanc. Et comme nous le savons aujourd'hui de plus en plus, ces bâtiments et la sculpture, tout a été aussi peint. Donc il faut s'imaginer une polychromie, comme on l'appelle, aussi de l'architecture antique. Donc ce gris que nous voyons aujourd'hui, c'est comme la squelette qui reste encore de ce qui existait une fois.
Assis sur son trône, il porte sur la tête une couronne de rameaux d'olivier. Dans sa main droite, il porte une statue de la victoire. Dans sa main gauche, un sceptre avec un aigle juché au sommet. Le trône est orné d'animaux peints et de dessins de statues. Le socle et les autres parures décorant la statue sont en or. On y voit, en plus de Zeus, Hélios sur son char, Héra, Hermès, Aphrodite, Apollon, Artémis, Athéna, Amphitrite, Poséidon, Héraclès.
Pausanias, deuxième siècle de notre ère.
Ce temple de Zeus, il abritait l'une des sept merveilles du monde, la statue de Zeus. Comment était-elle? Je pense qu'on le sait par rapport aux textes anciens.
On en sait étonnamment peu. C'est un peu le problème avec toutes les sculptures que Phidias, un des plus grands et plus importants sculpteurs du 5e siècle, avait créé. On se peut aussi se disputer sur la fonction de cette statue. Est-ce une statue de culte ou est-ce la statue de culte? C'est trouvé par contre vraiment dans les raillons. Mais c'est une statue tout à fait immense. Elle a été travaillée en or et en ivoire et surtout aussi en verre. Ce qu'ont montré aussi les recherches archéologiques. Comment il faut s'imaginer une telle statue? Elle est construite avec une sorte d'échafaudage ou un noyau en bois. Et sur ce noyau, ensuite, sont montés des petits bouts d'ivoire, d'or et des verres. Et la chose qui est intéressante et particulière à l'Olympie, que les fouilles allemandes ont trouvé juste à côté du temple les restes de l'atelier où la statue a été construite, avec des restes des outils de fabrication. Donc on a trouvé par exemple des moules en terre cuite dans lesquels on a pu presser du verre fondu et ensuite on a pu couvrir ça avec de l'or et monter sur la statue. Donc c'est un énorme puzzle et si on dit énorme, il faut le prendre au sens propre du mot. La statue a eu une hauteur d'environ 12 mètres. En outre, assise. Donc, on avait déjà dit dans l'Antiquité, si Zeus se levait un jour, il irait casser la toiture de son temple. Donc, il a rempli la salle qu'on avait agrandie à ce propos. La statue elle-même date de la deuxième moitié du 5e siècle, donc environ pour 30 ans. Il n'y a eu probablement aucune statue, une toute autre statue à l'intérieur dans ce temple. Des travaux commencent en 438 pour la statue de Zeus, alors que le temple a été commencé à 470. Donc Zeus a été représenté, ça nous savons d'après les descriptions et des représentations sur des monnaies, assis sur son trône, mais ce n'est pas tout. Donc l'ensemble, le mobilier, son vêtement et tout a été décoré par des reliefs figurés qui ont représenté toute une série de scènes mythologiques, etc. Donc ce que nous avons devant nous, c'est comme plus tard ensuite sur l'Acropole d'Athènes avec l'Athéna Parthénos, du même sculpteur, c'est tout un programme iconographique qui réunit un ensemble d'images pour passer un message. La dominance absolue de Zeus qui ordonne le monde, etc., etc. C'est ça qui fait la chose fascinante. Le deuxième élément, c'est le même problème avec la statue d'Athéna Parthénos. Le Zeus de Phidias d'Olympie n'était pas réceptionné par l'art. C'est-à-dire, nous n'avons pas de copie. c'était trop grand. Et même en réduction, nous ne disposons d'aucun modèle que nous pouvons dire, voilà, ça nous donne l'image. De l'Athéna Parthénon, sur l'Acropole, nous avons 2-3 statuettes, c'est aussi tout. Ces statues ont été trop exceptionnelles, on ne les a pas copiées, on a préféré, pour des raisons pratiques, de se référer à d'autres chefs-d'œuvre, il y en a eu assez. Donc les grands chefs-d'œuvre de Pausanias, de Phidias, nous échappent un tout petit peu pour cette raison. Donc nous avons des représentations surtout sur des monnaies qui nous donnent une image et le reste c'est la fantaisie.
Qu'est-ce qu'elle va devenir cette statue de Zeus ?
Les dernières traces dont nous savons qu'elle a été enlevée à Olympie au 4e siècle après Jésus-Christ et puis ensuite seulement transportée à Constantinople. Là, il y a encore une mention qu'on a pu la voir. Donc à partir de Constantin, cette nouvelle ville de Constantinople qui fait l'acquisition de nombreux chefs-d'œuvre et œuvres d'art pour décorer, pour se donner aussi une renommée et d'importance. Donc tant aussi cette statue d'Olympie. Et là, nous avons encore une mention. Il semble qu'elle a été détruite au début du 5e siècle après Jésus-Christ. Il y a une mention de 426 où elle était détruite lors d'un incendie.
Et c'est juste.
Vous voyez la situation de Constantinople où Istanbul moderne est assise dessus. Donc nous avons très peu de traces de cette ville antique. On peut toujours rêver, c'est toujours le rêve des archéologues, évidemment, de retrouver une trace de cette œuvre. Pour l'instant, tout ce que nous avons, donc, c'est la base de la statue à l'intérieur du temple qui est sur place, le socle, pas la base. Et ensuite, c'est quelques restes de l'outillage de Phidias. Plus, ça c'est un petit élément fort amusant qui donne la preuve, à l'intérieur de l'atelier, on a aussi trouvé une petite coupe qui dit, avec une inscription, « Je suis la coupe de Phidias ». Donc c'est comme il a laissé sa signature sur place. C'est tout ce qu'on a.
Toi qui lances au loin la foudre, toi l'agile, Zeus, par tes filles les heures, au son de l'hymne surgit de ma lyre sublime, je suis venu pour admirer de valeureux exploits. Leurs hôtes étant vainqueurs, la joie étreint soudain les vertueux à la douce nouvelle. Fils de Cronos, maître de l'Etna, pourfondeur de la lourde masse à 100 têtes, Typhon l'abominable, reçois cet hommage pour le vainqueur olympique par les charités décrétées.
Pindare, poète grec.
Autre temple important à Olympie, c'est celui d'Héra. C'est l'un des plus anciens temples grecs.
Disons, c'est un des plus anciens temples avec un péristyle dorique grec. Les archéologues sont parfois un peu pénibles
mais
dans
faites,
la chose.
Seulement.
Donc, c'est-à-dire un temple à péristyle, c'est un temple qui est entouré d'une colonnade de colonnes doriques. Et en effet, dans ce domaine-là, le temple qui a été construit ou commencé à 600 avant Jésus-Christ, plus ou moins, la datation n'est qu'une datation, comment dire, relative. Là, il est un des plus anciens, mais ce que nous pouvons appeler le temple, un temple pas avec une colonnade dorique entourée, là nous voyons un développement qui commence bien avant, déjà au 8e, 7e siècle avant Jésus-Christ. Donc on fait avant des temples. Mais construire un temple donc avec des colonnes doriques, ça c'est vraiment un cas, un des premiers cas que nous pouvons attester. Aussi dans la région voisine, en Arcadie, nous voyons se développer à partir de 600 cette forme de temple ensuite dans d'autres régions de la Grèce. Donc on commence à construire en pierre. Mais si je dis pierre, juste pour les rayons, il faut relativiser la chose. Parce que dans sa première version, la fondation était en pierre, les murs c'était en briques crues et les colonnes en bois. Et cela nous savons, selon les descriptions de Pausanias. Pausanias, c'est un voyageur. On l'appelle toujours, non parmi les archéologues, le guide bleu de l'Antiquité, de la Grèce, qui voyage au 2e siècle après Jésus-Christ en Grèce et qui nous laisse toutes ces descriptions. Qu'est-ce que nous ferions sans Pausanias qui nous sauve la peau pour l'identification des sites, des sujets? Donc il fait toute une liste et Pausanias nous dit, pour les rayons, donc voilà, c'est ce temple et il y a encore des colonnes en bois qui restent sur place. Et vous voyez, c'est 8 siècles plus tard presque où Pausanias donne cela. Et ce qu'on a fait. Donc on a tout le temps renouvelé, rajouté des colonnes. Et à la fin, c'est comme un petit cadre historique qui montre toutes les phases de construction de ces terraillons. Quand je dis éraillon, il faut aussi dire que nous savons qu'au 4e siècle avant Jésus-Christ et au 5e, c'était un temple dédié à Héra. Mais selon les recherches qui ont été faites pendant ces dernières décennies, il y a l'opinion bien fondée qu'en effet, c'est ça au début, le temple de Zeus. Donc au 600, c'est d'abord le temple de Zeus qui reste en place, puis ensuite on commence à construire le temple de Zeus à côté et on redédie cet ancien temple, probablement de Zeus, à Héra. Il n'est aussi pas clair s'il a été uniquement dédié à Héra ou s'il s'est trouvé à l'intérieur une statue de culte qui comprenait le couple, donc Zeus et Héra, ce qui serait un peu aux frais du Zeus de Phidias qui serait réduit en ce moment-là un peu comme une pièce décorative qui impressionne. Donc là, il y a beaucoup de questions ouvertes. Ce temple va aussi voir un développement parce qu'il sera transformé, ce qu'ont montré les dernières recherches, à la fin dans une sorte presque de musée. On réunit à l'intérieur des chefs-d'œuvre qu'on va récupérer dans le sanctuaire pour les mieux présenter, tout simplement pour les protéger. Donc on peut citer, bon, tout le monde le connaît, le fameux Hermès avec Dionysos enfant sur son bras, éventuellement de Praxitèle ou pas, ça c'est pas si important, si c'est un original, une copie. Pour les archéologues, il y a un grand débat dans ce sujet. Moi personnellement, je pense que c'est une copie
ouais.
Mais j'ose presque pas dire. Mais donc on réunit à l'intérieur des chefs-d'œuvre, on voit ça, l'organisation des bases sur lesquelles ces statues ont été placées. Donc c'est même plus un temple, ça devient un lieu d'hébergement, d'œuvres d'art, de présentation. Pour les touristes, hein, dans l'Antiquité déjà.
Olympie est rapidement devenue un immense complexe sportif avec des bâtiments construits spécialement pour chaque discipline athlétique. En gagnant de l'importance, la cité se dota de sanctuaires et de temples toujours plus nombreux pour glorifier et honorer Zeus. Mais à Olympie, on honorait aussi les champions, en inventant pour eux le gymnase et en construisant à côté une école de lutte et de boxe.
La première, monumentale.
Quels sont les autres monuments majeurs à Olympie ?
Oh, il y en a beaucoup.
On ne peut pas faire toute la liste, effectivement.
Non, on ne peut pas faire toute la liste, mais ça s'inscrit dans le développement. D'abord, il y a un troisième temple qu'on a tendance d'oublier. C'est le Métron, donc un temple dédié à la fin à Mtéméter, un peu plus petit, une longueur de 20 mètres seulement, alors que les rayons, il fait une cinquantaine de mètres de long, et qui est situé juste à côté. Ensuite, donc nous avons des bâtiments qui servent au fonctionnement du sanctuaire. Donc il y a le gymnase. Un gymnase, donc pas le gymnase école, mais c'est un lieu d'entraînement sportif qui est situé sur le côté ouest du sanctuaire. Il y a aussi, sur le côté sud, des installations d'entraînement pour les athlètes de l'époque romaine. Donc nous avons une série de ces installations. Autre catégorie des bâtiments, c'est les bâtiments de fonctionnement. Comme le Bouleuterion, c'est la maison de ville, l'hôtel de ville, pardon, où se réunit le conseil de la région aussi pour décider politiquement. Enfin, nous avons les dédications des rois. À partir d'Alexandre le Grand, nous voyons surgir les royaumes dits hellénistiques et ces rois ont besoin de prestige, donc ils commencent à financer des bâtiments. Un des premiers, c'est juste le père d'Alexandre, c'est Philippe II, qui fait construire le Philippeion. Et là, en tant que grec, c'est assez choquant parce qu'il plante ce monument qui représente sa famille en statue au plein milieu du sanctuaire. Ça, il faut oser faire. Donc, c'est-à-dire, le roi de la Macédoine met sa main sur le sanctuaire. Il présente lui-même à côté des statues des vainqueurs olympiques, des dieux, etc. Et maintenant vient le roi qui a tout simplement l'argent et l'influence politique de se représenter.
Mais on laisse faire à l'époque.
On n'ose pas dire non. Parce que c'est évidemment la force militaire, après la bataille de Chéronée en 338, donc la Macédoine commence à diriger sur la Grèce et cette nouvelle mentalité commence à prendre place. Ensuite, il y a d'autres rois qui vont dédier des grandes colonnades, etc. Donc ça devient un lieu monumental. un deuxième élément qui est important, ce ne sont pas les monuments, ce sont les œuvres d'art. C'est un lieu de prestige, c'est-à-dire les bâtiments ou les différentes cités essaient de se représenter avec leur richesse et leur apport. Pour cette raison, ils commencent à installer déjà à l'époque archaïque, sur le côté nord, une série de petits bâtiments que nous appelons des trésors, qui sont dédiés par les villes, souvent des villes de l'Italie du Sud, Gela, Megara, etc. Ils construisent leurs petites maisons et ils mettent dedans tous les trésors sur le présentoir, pour ainsi dire. Donc là, c'est une petite catégorie de monuments, mais extrêmement prestigieux. Ce qui est intéressant, c'est juste en marche du sanctuaire. Donc, par contre, Philippe, eux, ils se tiennent en marche, ils n'ont pas encore le droit de s'installer au milieu. Et là-dedans, on réunit des œuvres d'art, des objets en or, etc.
Ce sont des offrandes ?
Ce sont officiellement des offrandes. On se frappe pas mal l'épaule de dire je peux me permettre de dédier cela à ceux. Vous voyez combien on est bien. Évidemment, c'est un message aussi politique qui se fait. Autre catégorie, ce sont les sculptures monumentales. Mon favori personnel, parce que c'est vraiment un génie de sculpteur, c'est la Victoire ou la Nike de Paionios de Mende, une œuvre qui a été dédiée par une ville après une victoire autour de 420 avant Jésus-Christ. Et la victoire, elle vient du ciel. C'est une épiphanie. Alors le petit problème que Paionios a eu, comment vous mettez 2 tonnes de marbre à une hauteur de 10 mètres et vous la faites voler dans l'air. Il est arrivé en la plaçant sur un pilier triangulaire haut de 12 mètres, en plaçant sous ses pieds un aigle qui passe juste à travers et en changeant toute la pondération, la répartition des poids. Donc quand vous passez devant, aujourd'hui on ne peut plus faire ainsi, mais on peut l'avoir au musée, vous voyez la victoire qui descend de l'air sur vous, qu'elle est en pierre et qu'elle pèse 2 tonnes. Personne n'a remarqué cela. Donc vous voyez arriver une divinité du ciel. Donc il y a des œuvres d'art majeures qui se réunissent dans ce lieu aussi. C'est aussi une partie de la représentation.
Pavios Sidiropoulos.
Έχει χάσει τη μονιέρη κι η φουρτούνα το χτυπά. Μια ψευδέστηση ήταν ότι είχε από τη φυλακή. Άραξε τώρα να ξεκουραστεί.
Monumental.
Les Jeux olympiques ont commencé dès le 8e siècle avant Jésus-Christ, avec une course de 200 mètres. Organisée pour faire une trêve entre deux cités en guerre, cette première épreuve a marqué le début de plus de 1000 ans de jeu.
Quand le site va-t-il progressivement tomber dans l'oubli et pourquoi ?
Ça va ensemble avec le développement général de la Grèce.
Lorenz Baumer, professeur d'archéologie.
D'abord, déjà à l'époque impériale, donc après le tournant des airs, la Grèce entre dans une crise économique qui se fait remarquer. Nous voyons une réduction. Nous avons des empereurs qui investissent, mais de manière très sélective dans différentes villes. C'est surtout Auguste et Adrien qui aiment bien construire. À Athènes, par exemple, Adrien fait construire une bibliothèque, etc. Mais en effet, surtout au 3e siècle après Jésus-Christ, la Grèce tombe dans une crise économique comme l'ensemble de l'Empire romain, et elle perd beaucoup de sa force économique qui permet à maintenir cela. Le deuxième élément qui se rajoute, c'est l'arrivée du christianisme. Le christianisme qui a pas trop de plaisir de s'engager pour les dieux et aussi pas trop plaisir de s'engager pour les activités sportives hors des arènes. Dans les arènes, ça continue toujours. Et donc là, il y a une certaine... C'est plutôt un changement de mentalité. C'est pas une opposition fondamentale contre l'Empire ou contre Zeus. Aussi encore au 5e siècle, nous avons des empereurs romains chrétiens qui admirent les statues antiques des dieux. Mais il y a ce déplacement vers le christianisme. Donc ces lieux tombent à cause des réseaux économiques et religieux gentiment un peu, ils perdent leur importance. Un autre élément va être que c'est gentiment abandonné. Les dernières mentions des Jeux olympiques qui fonctionnent encore datent du milieu du 4e siècle après Jésus-Christ. Les empereurs romains essayent aussi de terminer activement les Cupayens. Donc il y a les édits de Milan, etc., qui mettent une fin. On cite toujours l'édit de Milan de 393 qui aurait interdit les Cupayens. Mais on voit que l'empereur a été obligé de répéter cette interdiction à plusieurs reprises. En effet, les Cupayens comme continuent à exister, mais plus tellement au centre. Donc ils sont plutôt marginalisés. Et ainsi, ceci tombe gentiment dans l'oubli. L'archéologie et les fouilles ont montré qu'au 5e siècle après Jésus-Christ, le site est abandonné. Donc on y va plus souvent. Et il s'y installe sur ce site un petit village qui va rester jusqu'au 6e siècle. Un tremblement de terre va mettre une fin totale et puis on abandonne le site et on va ailleurs.
Du prestige et des lauriers la splendeur. Ceux d'Olympie aux filles d'Océan, dans la joie, et pour ses coursiers vifs, recevez l'offrande de Psomis.
Pindare, poète grec.
Quand est-ce que le site va être redécouvert et on va avoir de nouveau un intérêt pour celui-ci ?
On a toujours su qu'il a existé. Les sources littéraires ont été redécouvertes, surtout à la Renaissance, mais aussi à l'époque médiévale. On se rendait bien compte que ce site a existé. Et nous voyons monter un intérêt pour la Grèce à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Pour citer un de mes héros privés, c'est Johann Joachim Winckelmann, fondateur de la recherche sur la sculpture antique, qui a rêvé lui-même dans ses lettres d'aller à Olympie pour faire des fouilles. Et cela en 1767. S'il avait fait ça, il aurait survécu son meurtre à Trieste l'année après. Malheureusement, il a renoncé à cela. Donc là, déjà, on rêve de cela. À la fin du 18e et au début du 19e, nous voyons toute une série de voyageurs. C'est là où commence une sorte de tourisme ou le Grand Tour en Grèce. Et les gens se rendent sur place pour regarder ce qu'on voit encore sur place. Mais les premières fouilles, en effet, commencent en 1828. 29, c'est une mission française, l'exploration de la Morée, comme on l'appelle, qui commence à fouiller et qui trouve plusieurs méthodes, donc des sculptures décoratives du temple de Zeus. Et pour cette raison, nous les voyons aujourd'hui au Louvre. Il y a une petite remarque à faire dans ce contexte, parce que déjà en 1824, le Parlement grec a interdit l'exportation d'objets antiques. La mission française est quand même arrivée à en emporter. Donc si on parle de restitution, si on va aller à l'extrême, on pourrait dire, même si c'était acquis à juste titre, on pourrait dire qu'il devrait se retrouver en Grèce. Les recherches modernes olympiques commencent seulement dans les derniers quarts du 19e siècle. À partir de 1875, la mission allemande, l'Institut allemand en Grèce, commence les fouilles systématiques. Mais la préparation des fouilles a pris presque une génération. C'est une fouille assez exceptionnelle parce qu'elle est tout à fait moderne. L'Institut allemand et l'État grec décident qu'aucun objet serait emporté et tout reste sur place. C'est absolument nouveau dans le monde archéologique. Et à partir de là, donc, c'est les fouilles allemandes qui continuent avec des interruptions. Il y a une deuxième période de grandes fouilles jusqu'à partir de 1936, interruption de la Deuxième Guerre mondiale et jusqu'à les années 60, et une reprise dans les années 70. Les fouilles continuent, plus à la grande échelle, parce qu'aujourd'hui, c'est plus possible de faire des fouilles de surface, etc. On essaie plutôt de répondre à des questions très très spécifiques, mais il y a chaque année des travaux qui se font, soit de l'Institut allemand, soit de l'Euphorie, donc de la surintendance grecque, qui continue aussi les recherches. Donc là, nous avons des fouilles qui durent depuis plus d'un siècle, qui sont assez impressionnantes.
Monumentale, Olympie, avec Lorenz Baumer, professeur d'archéologie classique à l'Université de Genève.
Aujourd'hui, quand on se rend à Olympie, il y a encore pas mal de choses à voir.
Oui, on peut se perdre sur ce site. On fait toujours une expérience un peu partagée. On peut se perdre parce que c'est difficile de se retrouver. Il faut vraiment avoir un plan dans la main pour comprendre. En même temps, on est toujours surpris que ces sites sont quand même à la fin relativement petits. Nous parlons de quelques centaines de mètres sur 150 mètres de distance et sur ce petit lieu est tout réuni. C'est la même sensation que vous avez quand vous allez à Rome sur le Forum romain. Qu'est-ce que c'est petit ? Ils ont dirigé le monde entier de là. Donc c'est d'un côté, c'est assez petit. Mais tous les bâtiments que j'ai mentionnés sont sur place à voir, dans l'état ruiné. On n'a jamais envisagé de faire des reconstitutions. Heureusement, on a laissé le site en son état comme on l'a sorti de la terre. Donc tous les bâtiments sont visibles, du temple de Zeus jusqu'au Philippéion, etc. Mais comme il n'y a que les fondations assez souvent qui restent sur place, il faut vraiment avoir une bonne carte à la main et un bon bout de fantaisie pour se remettre dans l'esprit. Il y a un petit désavantage dans cela parce que ça montre un ensemble de l'état à travers toutes les périodes. Donc ensuite, il faut encore plus de fantaisie. Comment il me faut m'imaginer le sanctuaire au 5e siècle avant Jésus-Christ? Bon, ils me font enlever le Léonidaïon, le Philippéion et tous ces bâtiments. Qu'est-ce qui me reste ? Donc, actuellement, vous voyez, c'est toujours sur les sites archéologiques, l'ensemble de toutes les périodes réunies. Ce qui complique un peu la chose. Mais autrement, tout est là. Donc, il manque un seul élément, c'est l'hippodrome. L'hippodrome qui est situé du côté sud, donc en dehors du sanctuaire, qui, ça nous savons aujourd'hui, qui a une longueur de 600 mètres, mais qui ne propose pas beaucoup de structure. En outre, tout est couvert par une épaisse couche d'alluviation et ainsi difficilement accessible. De ça, vous verrez sur place rien. Mais autrement, vous avez l'ensemble du site, ce qui est déjà une occasion assez unique, parce qu'un site de telle dimension, d'habitude, on n'arrive pas à le voir dans son ensemble.
Le site, on en reparle lors des JO, puisque c'est là que l'on allume la flamme olympique. Il y a tout un rituel, Il y a des femmes qui sont
à l'énergie solaire même depuis quelques années. Comme on peut le voir, c'est un rituel qui n'a rien à foutre avec l'Antiquité, si vous me permettez de dire ainsi. Donc le jeu des torches ne fait pas part des Jeux
Olympiques. Il n'y avait pas de torches à l'époque.
Les Jeux ont lieu pendant le jour. Et puis les courses avec les torches, si jamais ça se fait dans des contextes...
Donc elle sort d'où cette flamme olympique ?
C'est l'idée qui était géniale de Coubertin, qui a ressorti l'idée de reprendre, pas de recopier les Jeux Olympiques antiques, mais de recopier l'esprit. Et pour cela, il a eu besoin d'un symbole. Et la torche olympique, c'est un symbole tout à fait moderne qui n'a rien à faire avec Zeus. Mm-hmm. Zeus à la torche,
ou avec le lieu,
pas, ni avec le lieu. Donc c'est un symbole absolument moderne. Et ce rituel qu'on voit aussi toujours à la télévision, voilà, la mettre en flamme avec l'énergie solaire, c'est bien gentil, mais c'est rien d'autre qu'une création typique pour la fin du 19e siècle.
Un musée est à voir sur le site d'Olympie.
Oui, ou si on prend le site avec, donc deux musées. Le musée archéologique, donc, qui réunit, juste avec cet accord de l'Allemagne avec l'État grec, l'ensemble des découvertes qui ont été trouvées à Olympie. Et ainsi, ça permet de faire un voyage à travers les temps. Le musée commence avec ces quelques vitrines seulement tout au début, avec les premiers objets trouvés, cela seulement pendant les derniers 10 ans, donc du Hellénistique ancien. Et ensuite, on peut voir les petites statuettes en bronze du 8e siècle. Les parties monumentales, ce sont les deux frontons, donc du temple d'Olympie, du temple de Zeus, qui sont reconstitués à la grandeur nature et où on peut admirer ces sculptures. Mais attention pour les comprendre. Quand vous s'approchez aujourd'hui au musée, dans le musée, ces deux frontons, qui regroupent donc des statues d'une hauteur de 3,50 m, même plus au milieu, nous, on est tous très confortables, on se trouve face en face de ces sculptures. Mais dans l'Antiquité, elles ont été placées à une hauteur de 12 mètres. Donc pour les regarder dans la bonne perspective, il faut se mettre sur le sol et puis regarder vers le haut. Et ainsi, on commence à comprendre tout autrement ces statues. Donc ça, c'est certainement la partie la plus monumentale. Et enfin, ça continue à travers toutes les périodes, jusqu'aussi avec une collection des statues portraits romains. Donc ça donne vraiment une vue d'ensemble de ces trouvailles. Ce que vous voyez exposé, on a eu ces discussions récemment à Genève, combien on voit des collections, je pense on voit pas 1% de ceux qui possèdent, parce qu'il y a des énormes réserves avec toute la céramique, avec des tonnes de matériel qu'on a découvert lors de ces 150 ans de fouilles. Les archéologues sont pas des paresseux, donc il y a beaucoup de travail, beaucoup de matériel qui arrive, qui est étudié. Le public ne pourra jamais voir ces objets. Parfois, ils font circuler quelques-unes, mais on peut d'habitude pas les voir. Donc, il y a une masse de choses. Et ça, c'est aussi un problème de l'archéologie. On a très souvent trop de choses, parce qu'il faut les étudier, il faut les conserver, il faut les publier, il faut les rendre disponibles, ils doivent rentrer dans le discours, dans la discussion académique. Et là, il y a tellement de choses qu'on a la tendance de se référer toujours aux 5 mêmes monuments que tout le monde connaît bien, parce que ça nous facilite aussi un tout petit peu la vie. Mais c'est en effet la richesse qui peut poser problème.
C'est à Olympie que nous étions aujourd'hui dans Monumental. Lorenz Baumer était notre invité. Vous trouverez toutes les informations sur le sujet sur notre site internet. Et puis n'hésitez pas à aimer notre page Facebook, RTS Monumental. Le lien direct est à retrouver également sur notre site.
rts.ch/monumental.
François Andy, Atlas Mountain.
Suis-je un rêve dans lequel tu t'installes? Nous nous faisons le bal, nous nous paradons. Soyons les plus, soyons les plus beaux.
Soyons les plus, soyons les plus beaux.
Nous marchons tout au bord de l'eau. La mer a bon dos, elle maintient nos regards, elle nous renvoie des mots, elle nous renvoie de l'un vers l'autre. Soyons les plus, soyons les plus beaux.
Soyons les plus, soyons les plus beaux.
Je le sais, chacun de tes gestes abrite un vainqueur. Prête-moi ton châle, que je n'y prenne pas mal, et dénuder ton cou. C'était un stratagème pour l'ouvrir au large, pour y glisser des dents.
Soyons les plus, soyons les plus beaux, soyons les plus, soyons les plus beaux.
Toute l'équipe de Monumental vous souhaite une belle fin d'après-midi. À suivre Vertigo, mais auparavant le point sur le trafic.
Info trafic RTS.
La circulation s'écoule sans encombre sur l'ensemble du réseau routier romand. Sur l'axe Genève-Aoste, un temps d'attente de 3 quarts d'heure est annoncé au péage français du tunnel du Mont-Blanc en direction de l'Italie. Sur l'axe Lucerne-Chiasso, des colonnes s'étirent des deux côtés du tunnel du Gothard. Sur 2 km entre Vassonne et le portail nord, en direction du Tessin, soit 20 minutes d'attente environ. Et sur 7 km entre Biasca et le portail sud en direction de Lucerne, ce qui correspond à une attente de 2 heures environ. Il est conseillé d'emprunter un parcours alternatif par les cols alpins ou par l'A13. Pour tout complément d'information, l'application RTS Trafic est à votre disposition.
Info Trafic RTS, en collaboration avec les CFF et le TCS.
C'est Monumental avec Johan Dusset que vous retrouverez demain pour une rediffusion direction Shanghai, le symbole de la puissance chinoise. C'est bientôt l'heure de Vertigo avec aujourd'hui Osman Elkaraz que l'on retrouve juste après les informations.
L'heure avec Migros est la pomme de terre Amandine.
Vous écoutez la première, il est 17h.